Moi, j'ai transmis du Moussmail au Café Oriental. J'ai réfléchi totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai fait les deux compagnies au Casanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde à nouveau la parole. La RDC a un nouveau premier ministre, l'ancien député de l'UDPS, Sami Badibanga, a été nommé jeudi dernier par le président de la République. Lui et son prochain gouvernement auront pour mission, voir l'article 8 de l'accord, de conduire le peuple congolais aux élections d'ici la fin du mois d'avril 2018. Même mission réitérée par le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation le mardi dernier devant les deux chambres réunies en congrès. Et quelles devraient alors être les attentes de la population de ce nouveau gouvernement? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Julie Pesa Bongonda est au standard. Eric Tetidiakal à la mise en onde de cette émission, supervisée par Martin Estebujangwe, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo, Luabung Andy. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous recevons dans ce studio Patrick Kakwata, député national, élu des Colésies, président du mouvement des réformateurs libérateurs, MRL, parti de la majorité présidentielle. Monsieur Patrick, bonjour.
Bonjour, c'est président du mouvement des réformateurs libéraux.
Libéraux. Voilà, alors vous êtes honorable et puis vous avez, en tant que Congolais, un point de vue à émettre par rapport à ces débats aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire la mission qui est assignée à ce nouveau gouvernement est réellement une mission difficile et voire même impossible?
Il n'y a jamais eu de mission difficile ou impossible. L'essentiel, c'est d'avoir affronté et de savoir affronter et arriver à l'objectif atteint. Rien n'est difficile, rien n'est impossible quand on arrive ici.
Alors, au regard de l'accord global issu du dialogue de l'Union africaine, on se rend compte qu'il y a plusieurs missions qui sont assignées à ce nouveau gouvernement. Entre autres, l'organisation des élections et aussi l'amélioration du social. Est-ce que les deux peuvent être facilement à atteindre?
Je suis optimiste et les deux seront atteints parce que hier, on avait peur par la chute des prix de cours de matières premières, d'autant plus que nous avons même vu un budget qui nous a été déposé avec une réduction de plus ou moins 15 à 16%, donc un budget de 4,5 milliards. À ce jour, je suis heureux de l'apprendre et j'ai même consulté que les prix reprennent l'ascenseur. Et qui hier nous étions à 4 000, aujourd'hui nous sommes vers 6 000 et avec ascendance atteindre les chiffres qu'on avait et pourquoi pas les dépasser. Donc il dit que déjà ces budgets, étant optimistes, se verra à la hausse, sera revu à la hausse. Le budget qui nous a été déposé de 4,5 milliards, heureusement que nous n'avons même pas encore débattu ou examiné. Donc, avec le gouvernement qui sera mis en place incessamment, sera obligé de nous redéposer à notre budget, revu à la hausse, ou soit nous-mêmes, comme il est déjà déposé à l'Assemblée nationale, après le discours programme du gouvernement, au moment de l'examen du budget, nous allons revoir à la hausse ces budgets, qui nous permettra c'est que les aspirations, les attentes, les défis seront relevés.
Alors, est-ce que vous pouvez, en termes clairs, nous dire quelles sont réellement les priorités qu'attend ce gouvernement?
En soi, les priorités qu'attend ce gouvernement, vous savez que si nous nous sommes retrouvés à la cité de l'Union africaine, c'est parce qu'il y a eu un cas particulier, et le cas particulier, en premier, c'est les élections. Alors, nous attendons à ce que ce gouvernement puisse nous amener aux élections, parce que c'est un chemin emprunté depuis 2006 et nous n'allons pas laisser, nous devons continuer. Le pays s'est mis sur cette voie de la démocratie, nous avons des institutions qui suivent démocratiquement et nous devons les remplacer d'une manière démocratique. Ça c'est un. De deux, le social de la population. C'est vrai que le besoin de l'homme ne prendra jamais fin. Chaque fois que vous essayez de répondre à un point C, le point D vous attend. Ce sera que l'alphabet commence de A jusqu'à Z. Mais par après, dès bien qu'on est arrivé à Z, il y a eu des bêta, il y a eu des alpha, donc tout continue toujours, les oméga, pour dire que le besoin ne sera jamais satisfait, mais au moins il faudrait l'affronter et il faudrait au moins minimiser. Et c'est à cela que nous allons arriver. Donc, pour ma part, je trouve d'abord l'homme au centre de tout, le social, et puis deux, c'est les élections.
Donc, vous êtes vraiment optimiste quant à l'amélioration des conditions sociales en l'espace d'une année, six mois, là où, disons, certains analystes vont plus loin pour dire que c'était difficile pour un gouvernement qui a tenu pendant quatre ans, et voire même pendant toute une période d'une dizaine d'années, les conditions sociales n'ont pas été améliorées. En une année, vous êtes vraiment optimiste.
Il faudrait comprendre qu'il faudrait aller peut-être par des images pour qu'on puisse comprendre. Quand vous construisez une maison, il y a ceux-là qui font la fondation, il y a ceux-là qui viennent élever les murs, il y a ceux-là qui viendront mettre la charpente, il y a ceux-là qui viendront mettre les tôles, et puis après viendra ce qu'on appelle l'étape de la finition et tout. Donc si moi je suis optimiste, comme vous le dites, ce n'est pas pour autant dire que la personne qui arrive aujourd'hui, c'est cette personne qui va commencer par la fondation, jusqu'à mettre le tôle et finir la maison. Peut-être que ceux-là qui étaient les prédécesseurs, qui étaient bien avant que lui, ont déjà fait ce travail. Et lui n'est venu qu'au niveau de la finition, ou soit peut-être il est venu qu'au niveau de mettre le meuble. C'est pour ça que je me dis très optimiste, parce que ce travail social de la population n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a déjà des avancées significatives dans le social, mais on ne les a pas encore palpées. Mais peut-être avec ce gouvernement, et je suis optimiste qu'avec ce gouvernement, ça sera maintenant palpé. Donc, mettre le meuble pour habiter. Mais le travail a déjà commencé depuis bien longtemps. La fondation, élévation de murs, les tôles, on a déjà mis, la finition, les carrelages. Mais c'est mettre maintenant juste où ça, tout est déjà mis, mais c'est question maintenant de s'y asseoir. C'est pour ça que je vous dis, je suis optimiste. Et comme je l'ai dit, le budget sera revu à la hausse et que les coûts reprennent, les prix des matières premières reprennent de l'ascenseur. Donc, cela veut dire, nous devons maintenant nous concentrer sur le social de la population et ne pas s'écarter du chemin emprunté de la démocratie qui sont les élections.
Alors, le débat, c'est aussi autour de la taille de ce gouvernement. Êtes-vous d'avis avec ceux-là qui pensent que, ou qui estiment qu'il va falloir une forte représentation au niveau de la majorité, au niveau de l'opposition, ainsi qu'au niveau de la société civile, jusqu'à avoir peut-être proposé un gouvernement de plus de 60 personnes. Et une autre opinion soutient, par contre, un gouvernement qui sera un peu restreint, c'est-à-dire, pourquoi pas, celui qui vient de sortir avec une taille juste à 48 ministres. Ça pourrait créer quand même une restriction budgétaire et compresser les dépenses pour permettre à ce qu'on arrive quand même à faire résultat sur l'amélioration sociale.
Vous savez, cette histoire de taille du gouvernement, chiffres et tout, c'est un débat qui ne tient pas debout. Moi, je suis en train de dire qu'il nous faut des gens dignes, capables, qui méritent les postes compétents. La méritocratie doit être de mise. Vous vous souviendrez à son temps, une des questions.
Cela a été le cas aussi pour des gouvernements précédents.
Il
y a eu le gouvernement des technocrates, il y a eu le gouvernement, il y a eu des diplômés, des
hauts. Vous allez découvrir peut-être un côté que vous ne connaissez pas, ou soit peut-être que vous le connaissez. Un de mon côté, c'est le côté de ma fraternité. Donc tout je prends, je me base sur Jésus-Christ. Parce que si
c'est bon, ça c'est aléatoire.
Non, ce n'est pas aléatoire. Il a commencé à 144.
D'autres confessions religieuses,
si vous voulez. Il a commencé à 144, il est descendu, il n'avait que 12. Disciples. Ça, c'est un. Donc, pour dire qu'après ces 12, jusqu'aujourd'hui, le travail continue. Alors, moi, du chiffre, ça ne me dit pas, mais je préfère que la composition du gouvernement puisse tenir compte de la méritocratie, des gens compétents, dignes. Si c'est cette taille actuelle, ok. S'il faut y ajouter 2 ou 3, ok. S'il faut y retrancher 2 ou 3 ou 4, ok. Mais mon problème, c'est des gens qui doivent relever les défis tels qu'on a commencé avec vous l'émission. On a parlé d'un problème d'un défi, d'une mission assignée. Alors moi, je préfère qu'on nous fasse un gouvernement avec des membres dans ce gouvernement, la tautologie, permettez-moi, avec des membres qui permettront de relever les défis et face au peuple qui nous sommes comptables de ce peuple. Parce que moi, je suis un mandataire du peuple qui m'a donné un mandat. Je suis comptable à ce peuple que j'appelle toujours mon patron, de leur dire voilà la mission que vous avez assignée, nous l'avons réussi. Alors je vais voir moi un gouvernement qui peut réussir cette mission. Le défi qui est là, on leur a assigné une mission. Nous devons les élections, on n'a plus rien à justifier en avril 2018, on n'a plus rien à justifier sur le plan social.
Peut-être si on avance, si jamais on arrivait à mobiliser la
tout dépendra, mais c'est ça que je
la politique opprimée.
C'est pour ça que je préfère qu'on nous mette des personnalités qui peuvent nous faire dire et nous faire encore revivre qu'il est beau à vivre en République du Congo.
Et si vous parlez de l'intérêt de Dieu, pourquoi ça traîne une semaine après la nomination du Premier ministre? Jusque-là, il n'y a pas encore de gouvernement.
Nous allons dire que ça traîne par rapport à quoi? Est-ce que la Constitution a-t-il mis une deadline pour dire quand un Premier ministre est nommé, il faut dans les 3 jours ou bien il faut... Ça ne traîne pas, mais on est en train de nous donner un travail qui...
Parce qu'il y a vraiment des défis, il faut déjà que les gens se mettent au travail.
Oui, il faudrait comprendre qu'ici, il y a des composantes. La composante majorité présidentielle, la composante société civile, la composante opposition. Et les personnalités indépendantes. Alors, tout ce monde-là, il faudrait que le Premier ministre puisse arriver à arrondir les angles. Parce que les ambitions de tout un chacun, tout le monde a des ambitions. Celui qui n'a pas d'ambition, sa place est bien connue.
Est-ce que le Premier ministre aura la liberté de choix?
Il a la liberté de choix parce qu'il est quand même Premier ministre. On ne doit pas lui imposer un...
D'accord, on parlait de consensuel. Toute décision doit être consensuelle.
Non. Décision au niveau du dialogue. Non. Ce n'est pas au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement, chacun s'assure.
Il peut refuser certains membres qu'il est suméré, pas important.
Il est Premier ministre comme
les autres. Proposé par des plateformes.
Il est Premier ministre comme les autres Premiers ministres. Vous avez entendu à certains moments dans notre pays, il y a un dictateur, c'était de dire quoi?
Donc,
il y avait le nom qui arrivait et que lui, c'est
ce qu'il avait fait. Ça ne mérite pas. Le il avait refusé au pays.
Voilà, vous me rejoignez, monsieur Gire, vous me rejoignez. Je suis d'ailleurs très content et dans ma peau parce que c'est pour vous dire que le Premier ministre, comme tout le Premier ministre, c'est pour cela que quand je parle de la méritocratie et des hommes compétents, donc du fait que quand on lui donnera les noms, et s'il se rend compte que ce nom ne mérite pas, il a la liberté de dire aussi, comme maintenant nous avons un Premier ministre qui vient
de
du centre. Non, pas de l'opposition, du centre, c'est un Congolais. Là, on avait vécu Yandika Kayandive, mais là, on vivra tôt.
081-893-75 pour votre intervention en direct. Si vous nous rejoignez, notez que nous parlons de la RDC qui a un nouveau Premier ministre. L'ancien député de l'UDPS, Sami Badibanga, a été nommé jeudi dernier par le président de la République. Lui et son prochain gouvernement auront pour mission, voir l'article 8 de l'accord, de conduire le peuple congolais aux élections d'ici à la fin avril 2018. Même mission réitérée par le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation le mardi dernier devant les deux chambres réunies en congrès. Alors, quelles devaient être les attentes de la population ou de ce gouvernement? Vous pouvez participer à cette émission directement ou encore vous pouvez également poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, je salue l'invité, je salue tout le Congolais.
Voilà, Sylvain, vous êtes avec nous. Est-ce que vous estimez comme les autres qu'il s'agit là d'une mission difficile, voire même impossible pour le nouveau gouvernement? Rélever les grands défis qui attendent.
Ce qu'il faut noter, c'est que le Premier ministre actuel, son roi de Sami Badibani, tout ça, doit comprendre qu'il a un grand travail à faire. Le travail qu'il a à faire, c'est un travail de consolider la démocratie qui a été initiée dans ce pays, ça fait plusieurs années. Et monsieur le journaliste, je dois vous rassurer que l'émission d'aujourd'hui a un caractère spécial, puisque cette émission permet aux Congolais d'exprimer leurs vœux au Premier ministre sur ce qu'ils désirent dans leur vie et dans leurs conditions socio-économiques. Je pense à un niveau, si le moyen a été accordé à chaque Congolais d'adresser des correspondances au Premier ministre, on relèverait plusieurs problèmes au même moment. D'abord, il y a des questions sociales. Vous savez que si nous retournons dans notre constitution, il est garanti à chaque Congolais un certain nombre de droits. que ce soit des droits sociaux, des droits économiques. Je prends cas de l'éducation, soit de l'enseignement primaire gratuit. Voyez-vous, ce sont des droits sociaux très importants. Il y a des questions de politique de chaque Congolais. Et la liberté d'expression, la liberté d'opinion, voyez-vous, ce sont des questions qui actuellement rencontrent énormément de difficultés. Il y a eu ce dialogue entre Congolais, on a débattu des questions des meetings du rassemblement. Ce sont des préoccupations des Congolais aujourd'hui qu'on voit à travers le Premier ministre Sami Badibangi de pouvoir garantir à chaque Congolais les droits de manifester son point de vue politique. Et pourquoi pas tout ce qu'ils pensent être comme les ingrédients de la démocratie. Mais si nous avons, je dois aussi dire ceci. C'est qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont pas besoin de rêves inutiles. Puisque lorsque je suis l'invité, il me semble qu'ils veulent orner les Congolais dans des rêves. Pourquoi? Il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux Congolais qu'il y aura des magies qui vont s'accomplir dans une année, quelques mois. Puisque comme quelqu'un l'a dit, c'est que nous avons connu un gouvernement qui a fait 5 à 10 ans aujourd'hui, mais qui peut-être les combats continuent à être engagés et peut-être sans être gagnés. Je prends les conditions socio-économiques des éléments de la PNC des épargnés, qui doivent être améliorés.
Oui, Sylvain, il vous reste une minute.
Oui, ça c'est très capital, puisque notre pays traverse une insécurité généralisée. Quand vous lisez l'accord, on dit que nos frontières sont forées. Donc ce sont des devoirs qui s'incombent au Premier ministre aujourd'hui de pouvoir garantir la sécurité intérieure et extérieure de la RD. La question, surtout je vais terminer par là, puisque l'État est trop petit, la question des élections est une question pétineuse. Les Congolais voudraient que les élections se tiennent avant le 19 décembre. Et comme c'est impossible, les Congolais voudraient du Premier ministre que l'on respecte la position qui demande à ce à l'empêchement d'exister, c'est celui que le président du Sénat assume la gestion du pays, tout en orientant les peuples congolais vers l'organisation des élections. Et je pense que c'est un travail épiné de mettre et de souder la démocratie du Congo, et Sami Badibanga aurait réussi si jamais nous rentrions dans l'ordre constitutionnel qui semble être
merci. Merci voilà beaucoup. Dit, merci beaucoup, Sylvain. Vous avez relevé beaucoup de défis, notamment les questions sociales, la gratuité de l'enseignement, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Vous avez reconnu, comme tout le monde, que la priorité aujourd'hui, c'est d'amener la population aux élections. Mais vous avez aussi insisté qu'on ne doit pas s'attendre à un miracle, parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'impératifs, beaucoup de difficultés qui nous guettent et qui guettent également ces nouveaux gouvernements. Mais qu'à cela les tienne, il doit travailler dans le sens de garantir la sécurité intérieure et extérieure. Merci beaucoup, Sylvain. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et merci d'être des nôtres. Maître Omar, vous êtes avec nous. Voilà, en attendant que la ligne de Maître Omar s'améliore, Maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, cher Lungembo, bonjour à tous les amis auditeurs.
Quel est votre avis et quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, Gilles, il faut reconnaître que la mission impartie à Sami Badibanga est vraiment difficile, très difficile en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il a hérité d'une situation du tout heureuse. Donc, lui ne saura pas, dans quelques mois, qu'il lui reste de faire tout ce qu'on lui demande d'accomplir. Premièrement, la réussite de Sami Badibanga, à mon humble avis, passe d'abord par l'assainissement de l'espace physique. Parce que ce n'est pas un secret pour personne aujourd'hui. Il y a une frange importante de la population qui n'est pas d'accord avec tout ce qui a été fait et tout ce qui venait d'être concrétisé par le chef de l'État, Joseph Kabila. Ce qui fait que si M. Sami Badibanga ne parvenait pas à tenir le climat politique au jour d'aujourd'hui, ça lui sera une mission impossible. Ce qui pourra faire, c'est quoi? C'est vrai, moi je ne serai pas entré dans les guerres, il est exclu, il est de l'IDPS ou pas, mais néanmoins c'est quelqu'un qui connaît la réalité. Il a quand même le cahier de charge du rassemblement qui pose énormément de problèmes. Il a tout d'abord apporté le premier acte de bonne foi. c'est-à-dire voir les recommandations, le revendique du rassemblement. Le média le veut d'abord, l'équivoque sur cette question-là. Hein, quelques opposants qui sont tracassés le veut, l'équivoque sur la deuxième question. Je pense qu'il pourra ouvrir un chantier qui pourra lui permettre de marcher avec le soutien de la population. Deuxièmement, là où maintenant, j'ai dit que Sami Badibanga aura une difficulté à accomplir sa tâche. C'est à quel niveau? Tout le monde sait que M. Augustin Mahatapono, qui avait un budget considérable, n'a pas pu ni améliorer le social des Congolais, ni organiser les élections. À combien plus forte raison, M. Sami Badibanga, qui aura un budget très réduit, parce qu'aujourd'hui on parle de 4 à 5 milliards.
Oui, oui, mais Adrien, vous avez suivi notre invité qui a évoqué tout à l'heure la possibilité de revoir à la hausse ce budget. Je crois que c'est l'autorité budgétaire qui est d'ailleurs dans ce studio. Et donc il y a pas de crainte à émettre là-dessus. Hein. Bon, c'est ce que vous comprenez dans ces propos.
J'ai un rappel que tous les respects. Le juriste vis-à-vis de l'honorable Kakwata, je pense qu'il doit éviter d'endormir la population, parce que j'ai donné un cas concret. Si, lorsqu'on avait 9 milliards, 8 milliards, 7 milliards, on n'a pas pu faire quelque chose à 4 milliards, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut augmenter le budget. Mais je ne pense pas que ce budget-là atteindra le montant de 9 ou 8 milliards. Donc, si on fait réajuster, c'est pour quelques millions, arriver peut-être à 5 milliards. Il y a des évidences pour lesquelles on ne peut pas
négocier.
Oui, moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la priorité de M. Sami Badibanga doit être l'organisation des élections. Point barre et là, pour réussir à ça, il faut
voilà, merci. Merci beaucoup, Maître Adria. Vous avez ajouté un élément, c'est l'assainissement du milieu politique. Pour compléter d'ailleurs votre prédécesseur, Sylvain Debounia, qui a beaucoup plus insisté sur la garantie de la sécurité intérieure et extérieure, qui pourrait réellement amener aussi aux élections. Alors, réaction rapidement, honorable Patrick Apota, c'est vrai, la mission pour certains auditeurs, les premiers, a semblé un peu équilibré en disant que ça peut être possible si jamais cela passait par le préalable du genre disons que l'actuel gouvernement puisse mettre l'accent sur la question sociale et aussi garantir la sécurité intérieure et extérieure pour amener aux élections. Mais Metadier n'a pas partagé à 100% ce point de vue en disant qu'il y a quand même des revendications, des rassemblements qu'il faut tenir quand même compte dans la gestion de la chose publique, quoique n'ayant pas participé au dialogue.
Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par dire que dans la vie, il faut savoir dire merci, être reconnaissant. Et vous avez vous-même dit tout à l'heure que j'étais optimiste, que j'ai confirmé mon optimisme, c'est que quand je vois un verre, il y a un liquide dans un verre au milieu de ce verre, moi je me dis que le verre est à moitié rempli. Et quelqu'un d'autre se dira que le verre est à moitié vide. Tout dépend de ce qu'on appelle cadre de référence. Si on dit aujourd'hui que ce n'est pas du coup de baloto magique, honorable Kakwata ne puisse pas endormir la population, je ne l'endors pas. Disons-nous de vérité et sachons dire merci. Pour voyager ici dans notre pays, le seul moyen n'était que les avions. Et les avions nous coûtaient cher. Aller de Lubumbashi, de Kinshasa vers Lubumbashi, 2 heures de vol, on payait facilement 800 dollars. Si aujourd'hui, bien que ce soit des avions à occasion, demain on en aura 19, mais au moins il y a eu un pas. On a des avions qui, d'ailleurs, certaines des compagnies, qui nous faisaient payer à 800, mais quand on a amené notre compagnie nationale, on est descendu. Donc aujourd'hui, je sais partir de Kinshasa à Lubumbashi.
Entre les élections et le social.
J'en arrive parce que ça fait partie du social. Vous savez, quand vous êtes mobile, un instant, j'en arrive. Oui. Parce que vous savez, quand vous êtes mobile, même ces élections-là, il faut bien prendre qu'en 2006, quand on organisait les élections avec Maluma, le paix à son âme, toutes les infrastructures de base étaient délabrées. On ne savait pas se déplacer. Pour vous dire vrai, il y a eu au moins plus de 150 aéronefs qui ont circulé la République démocratique du Congo en 2006. 150 aéronefs, le pays est obligé d'aller s'endetter, d'aller en prêt.
Donc on a dépensé aux partenaires.
Oui, on a dépensé beaucoup. 150 aéronefs sur le ciel congolais. Mais tandis qu'aujourd'hui, je suis encore optimiste en me disant si nous, nous devons, parce qu'on doit toujours utiliser des aéronefs, mais on n'en dépassera plus encore 150. On en dépassera peut-être 50 ou 60. Parce qu'au moins, il y a maintenant deux coins qu'on sait atteindre par véhicule. Il était difficile de quitter Kinshasa atteindre Kananga par route, mais aujourd'hui aussi il le fait. Il était difficile de quitter Kinshasa aller à Matadi le même jour.
Si vous voulez
une semaine, aujourd'hui on peut le faire. Parce que ce déplacement-là permet même pour les élections. Il y a même des gens qui n'ont pas su se choisir les dirigeants parce que se trouvant à des kilomètres plus loin par rapport au centre des votes. Et aujourd'hui, on les a imposés certains des dirigeants. Alors, pour comprendre que même s'il faut faire les élections, il faudrait qu'au moins toute la population,
vous remettez en cause tous les résultats.
Je n'ai
pas que à certains points, il n'y a pas eu des gens qui.
J'ai bien dit ceci. Je ne remets pas en cause. J'ai dit il y a des points où certains n'ont pas pu
les résultats
atteindre parce que même quand on a eu à faire l'enrôlement de cette période-là, ils s'étaient pas aussi enrôlés.
Parce que
donc le fichier était un fichier fiable exact par rapport aux endroits où les centres ont été placés. Donc maintenant aujourd'hui, même si aujourd'hui on parle de la révision du fichier, c'est pourquoi parce que nous sommes en train de chercher l'inclusivité que tout Congolais majeur où qu'il soit puisse se décider sans dirigeant. Donc, pour dire que c'est un état, nous sommes en train de partir, c'est un chemin, un processus. Les élections de 2006, c'était pour la première fois que notre pays organisait. De là, il fallait parfaire les erreurs. On a parfait les erreurs. On a eu les élections de 2011. On s'est dit, on n'est pas satisfait. Nous devons continuer en 2000, tel que nous sommes en train de partir. Alors, il faudrait se dire tout cela. Il faudrait parfaire. Pourquoi je vous ai dit l'alphabet parle de A à Z. Mais quand on est arrivé à Z, on ne s'est même pas arrêté, parce qu'on devait s'arrêter. Je veux dire, il y a eu maintenant alpha, il y a eu bêta, il y a eu oméga. Donc, pour vous dire que chaque jour, il y a toujours quelque chose qui s'ajoute. Alors, même pour l'instant, il y a eu des élections en 2006, il y a eu des élections en 2011, il y aura des élections bientôt là en 2018, selon l'accord. Et partant de ça, nous devons parfaire. Donc, c'est pour dire que les élections peuvent être une priorité, mais on n'ira pas faire ces élections affamées. On n'ira pas faire ces élections si on ne sait pas dormir. On n'ira pas faire ces élections si on ne sait pas se déplacer. Donc, l'aide sociale de la population va de pair avec les élections.
Voilà,
aujourd'hui, vous pouvez mettre tout dans les élections si les enfants ne vont pas à l'école. Comme on a parlé tout à l'heure de la gratuité des enseignements. Si les enfants ne vont pas à l'école, si même la liberté d'expression n'y est pas, si nous-mêmes nous ne savons même pas aller travailler, à quoi bon ces élections. Donc, ça va de pair et un bon gestionnaire, c'est celui qui sait équilibrer. Moi, j'ai eu un ami en classe. Lui, quand il venait étudier, il faisait de sorte que partout qu'il est que 50%. Et il réussissait. Et d'ailleurs, même les professeurs nous disaient, les plus intelligents de la classe, c'était lui. Parce que nous, on pouvait faire tout ce qu'on veut, et par compensation, par péréquation, c'est à ce moment-là que nous passions de classe. Mais lui, quand on le proclamait, on voyait que partout, il n'avait que 50%, 50%, 50%, 50%. Donc, le plus intelligent, c'était lui. Parce qu'il a pu quand même tout manager, mais nous, c'était par péréquation. Parce que ici, j'ai eu 80, on peut faire une péréquation pour rééquilibrer, aller donner à un endroit où j'avais un échec pour passer. Alors, de nous, de qui est plus intelligent? Sur ce garçon-là. Alors, c'est pour cela que je préfère un manager qui préfère encore équilibrer et le social et les
élections. Donc, en
termes clairs, et nous allons.
En termes clairs, les choix de Fanny Badibanga, c'est un choix judicieux.
C'est un choix judicieux et seul, il ne peut rien. Avec l'appui de tous, il pourra. Et c'est pour cela que je vais ajouter, il faudrait que nous ayons l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, ce n'est pas laisser Samy Badibanga pour dire c'est difficile ce qu'on a demandé, on le regarde faire. Non. C'est difficile ce qu'on vient de donner comme tâche, mais allons-nous tous, mettons la main à la patrie. Ouais. Et dans le parce que s'il réussit, ce n'est pas lui, Samy Badibanga, mais c'est la
République
du Congo, c'est nous tous. Donc dépassons-nous. Et essayons de transcender nos sentiments en se disant nous devons amener
la pierre à l'édifice. Alors, on va entamer la deuxième demi-heure de cette émission, qui nous permet d'ailleurs d'accueillir cette deuxième série des auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Merci à vous tous qui nous avez envoyé des messages par rapport à cette thématique. Nous vous en remercions et nous remercions également ceux qui nous suivent en direct en ce moment, où se tient d'ailleurs le débat sur notre page Facebook et à travers le pays et aussi à l'étranger sur notre site internet. En tout cas, merci. Vous êtes nombreux à l'étranger. Franck, vous êtes en Allemagne. Conférence de la GPC. Maître Omar à Kinshasa. On va commencer avec Maître Omar. Maître Omar, bonjour.
Ah, bonjour, JR. Mes excuses pour l'interruption de tout à l'heure.
Voilà, j'ai posé tout à l'heure à vos prédécesseurs quelles sont les priorités par rapport qui attendent de ces gouvernements. Alors, quels, au fait, doivent être les plus grands défis à lever et aussi, est-ce que vous pensez que c'est une mission difficile, voire même impossible? Ou pour vous, vous êtes comme notre invité optimiste et tant d'autres qui ont appelé aussi au début pour dire que ben voilà, il faut que ça passe par l'assainissement d'abord de l'espace politique.
Merci beaucoup, Gilles, du verbe que vous m'accordez. Mais avant de répondre aux attentes, aux priorités que le gouvernement seul doit, n'est-ce pas, concrétiser, je voudrais dire à l'invité, que je respecte beaucoup, qu'on ne traite pas les problèmes politiques avec légèreté. Si aujourd'hui nous en sommes là où nous sommes, quelque part, il y a aussi une responsabilité parlementaire. Il doit commencer par avouer leurs échecs qui n'ont pas pu gérer en tant qu'autorité budgétaire au lieu de donner des théories inutiles. Il parle de la priorité qui va aller de pair avec les élections. Dans un État démocratique, la démocratie a trois piliers fondamentaux. Et la première des priorités, le premier pilier, c'est la garantie des droits fondamentaux de l'homme. Les élections ne sont que des éléments mineurs. On ne peut pas dire que les élections vont de pair avec le social. Ça, c'est insulter les peuples congolais. Le Maroc n'a pas de président, il n'y a pas d'élection présidentielle. L'Allemagne non plus, l'Angleterre non plus. Nous sommes des gens qui vivent mieux. La priorité dans un État, c'est le social des Congolais. Et les élections ne sont que des éléments mineurs. Allez lire les livres de droit constitutionnel, vous en comprenez quelque chose. Par rapport à la décision du Premier ministre, je ne voudrais pas revenir à la polémique qui existe sur sa nationalité parce qu'il a été consultant, opérateur économique. On n'en a pas parlé et je ne voudrais pas qu'on puisse en parler lorsqu'il est Premier ministre. Quelles sont alors, très chers, dire la priorité par rapport à ce gouvernement? Moi, je pense, je l'ai dit par rapport à l'émission que nous avons effectuée avec votre coordination à Bénico, ma seule inquiétude à ce jour, c'est que cette mission accordée aux commissions est possible parce que le budget alloué au gouvernement n'est pas à la hauteur des défis ou encore des enjeux de l'heure. On demande au Premier ministre de concrétiser le procès électoral, on demande au Premier ministre de concrétiser le procès des Congolais et on ne fait pas allusion au budget qui doit être alloué. Il y a ce qu'on appelle en droit budgétaire le principe de l'équilibre budgétaire. Les dépenses doivent correspondre aux ressources prévues. Mais aujourd'hui, on parle de 4 années. Même si on les réalise à 10 milliards, pensez-vous qu'on sera à la hauteur? Ça, ce n'est pas un piège, et je dirais comme le professeur Bouchab, entre les faucons et les colombes, où vont les hommes politiques congolais? Deuxième chose, donc, il doit s'évertuer, il doit s'atteler à hausser l'enveloppe budgétaire congolaise. Sinon, on sera toujours là à avoir de bonnes intentions et on n'arrivera pas à faire les bonnes actions parce que le budget est incompétent. Deuxième chose, il faudra assainir le régime financier. Hier, parmi les ressources ou parmi les sources budgétaires qui financent, n'est-ce pas, la caisse de l'État, il y a le régime financier. Récemment, le Premier ministre sortant a pu changer.
Omar, juste une question de curiosité. Vous pensez que dans un exercice fiscal, on peut arriver quand même à cet objectif-là, assainir quand même les régies financières et avoir les résultats qui nous attendent, c'est-à-dire aller vite aux élections dans moins de deux ans?
Certainement, je ne suis pas juriste fiscaliste de formation, je suis publiciste. Oui. J'ai quand même appris le droit fiscal. On ne peut pas espérer à un développement, une émergence, que l'assiette fiscale pose encore problème.
Oui, parce qu'en réalité, à l'espace de deux ans, on n'a qu'un exercice fiscal. Si nous devons compter à partir du mois de mars prochain jusqu'au mois de mars 2018, on n'a qu'un exercice fiscal. Donc vous imaginez que les assignations qu'on va donner à chaque régie financière, on pourrait réellement atteindre mars pour avoir le résultat et organiser les élections en avril 2018.
J'ai la source principale du budget, c'est l'impôt. Allez interroger tous les économistes qui vous diront. Même les professeurs Bakarien ne me considèrent pas. La source principale du financement du budget, c'est l'impôt. Et si ceux qui sont censés gérer les recettes de l'impôt, ils ne le font pas bien, il n'y aura jamais d'avancée. Pourquoi je dis pour atteindre? Les gens qui ont été nommés sont proches de la 5e ministre. Et on ne sait pas pour quel temps on les a nommés. tous, pas tant que pour moi, nous voulons la réussite de la mission confiée au Premier ministre. Et si on n'arrive pas à tenir la gestion des finances publiques, en tout cas, on ne fera rien d'avancé. Voilà pourquoi je souhaitais, à part l'aspect relatif à la hausse du budget qui doit être travaillé, il faut qu'on assainisse également la gestion des finances publiques. Autre chose hier, le gouvernement a été nommé pour une mission principale qui est la concrétisation du projet électoral. En tout cas, c'est la mission principale. Il faudra en ces jours user de la bonne volonté, user aussi de la capacité de mobiliser les recettes. Ce sont les deux atouts pour arriver à faire ce qu'on peut faire. Mais tout se résume très cher hier par la rigueur de la gestion qu'on doit faire, par le contrôle des recettes publiques qui sont générées, et je vous rappelle que la ressource principale, c'est l'impôt, et enfin par le respect de l'accord qui a été. Il y a un problème sérieux hier, il y a un accord qui a été fait aujourd'hui. Si cet accord n'est pas respecté, que ferons-nous? Combien d'accords avons-nous au Congo? Depuis l'accord de Saint-Sissi, l'accord de Moussaka, l'accord de l'unité, pour en citer que cela. Si l'accord sur la trame de fond de ce qui est fonctionnement étatique aujourd'hui n'est pas respecté, il faudra aller débattre. Nous souhaitons plus succès au Premier ministre, mais nous pensons qu'il y a des préalables sérieux.
Les priorités
sont fixées. Les sociétés des Congolais, voilà. Les élections, mais cela ne passe que par l'assainissement des recettes financières, par la soulevance ou la hausse de l'enveloppe budgétaire et par un contrôle rigoureux. Je pense qu'en faisant ces trois piliers, on pourra ne pas atteindre ce que nous voulons.
Merci beaucoup, Maître Omar. Alors, confiance, vous êtes à Kinshasa. Juste une question, parce que Omar parlait tout à l'heure, il comparait le Maroc avec la RDC. Là-bas, on n'organise pas d'élections, mais les gens vivent mieux. Donc, les élections ne vont pas de pair avec les sociales. Est-ce que vous partagez cet avis avant qu'on revienne à notre invité?
Non, les élections ne vont pas de pair avec les sociales. Oui, je commencerai par dire bonjour, Mbote Diambo à tous les opérateurs de la radio de la paix et ceux qui nous écoutent partout au monde. Du premier ministre Sani Badibanga, je commencerai d'abord par féliciter pour l'élévation dont il a été bénéficiaire, parce que je suis très sûr qu'en commençant sa carrière politique, il n'a pas rêvé de devenir premier ministre. Peut-être un ministre ou peut-être ministre, mais pas en tout cas un premier ministre. Je voudrais vous rappeler que pour 30 secondes au sommet de l'État, il doit savoir que tout pouvoir émane de Dieu. Mais un bon pouvoir doit être pour le bien de la population. Alors, en tant que tel, tant qu'il n'aura pas posé des actes en faveur du bien-être du Congo et des Congolais, il sera toujours considéré comme les autres qui, même s'ils ont eu beaucoup d'argent et beaucoup de temps, ont beaucoup réussi, mais dans l'échec du social et du bien-être de la démocratie dans notre pays. Les premières attentes d'abord à Sani Badibanga, ce sont des signaux forts, des signaux très forts, qui caractérisent réellement l'UDPS. Quand l'UDPS arrive quelque part, il y a souvent des signaux très forts. Parmi les devoirs que je lui donne, il y a d'abord celui de pouvoir prouver qu'il est venu de l'UDPS, qu'il est de l'UDPS, il sera de l'UDPS, parce que l'UDPS en soi, c'est une façon de voir ce pays réellement grand dans la progression de la démocratie, dans le progrès de la démocratie d'abord, et ensuite, le progrès social, qui n'est rien d'autre qu'une conséquence d'une démocratie entraînant une bonne gouvernance. Les attentes de la population sont aussi le changement de mentalité. Le premier changement de mentalité qu'il doit avoir hérité de l'UDPS, c'est celui du respect des textes, c'est surtout celui de la Constitution. Ce que moi j'attends de lui, qu'il ne soit pas complice de la modification de la Constitution qui ne fera qu'affaiblir cette jeune démocratie. J'aimerais que Sani Badibanga écrive l'histoire de son passage à la tête de la primature en lettres d'or, qu'il ne se fasse pas distraire à trop embrasser pour mal étreindre. La crise qu'il a propulsée au pouvoir aujourd'hui n'a qu'un seul nom. La légitimité du pouvoir après le 13 décembre 2016. Qu'il ne fasse qu'une seule chose, organiser les élections justes, libres, transparentes, pour changer et nous donner des dirigeants légitimes qui pourront peut-être mieux gérer ce pays. Pour cela,
je lui suggère qu'il travaille avec les moyens de sa politique et non la politique de ses moyens.
Merci beaucoup.
Je sais qu'il faut les moyens de sa politique. Par exemple, je vais lui suggérer.
Oui, rapidement.
Ça, c'est vraiment la dernière phrase. Qu'il prenne seulement les excédents de la vente des carburants qui coûtent moins cher ailleurs, qu'il prenne cet excédent-là comme contribution de tout Congolais aux élections. Parce que nous payons tous les carburants d'une manière indirecte. Nous l'achetons très cher.
Merci beaucoup, confiant. Alors, honorable Patrick Akota, réagissez parce qu'il y avait une préoccupation directe d'Omar qui avait comparé le Maroc et en évoquant bien entendu les élections qui ne vont pas de pair avec le social. Comment vous réagissez?
Merci beaucoup. Je respecte beaucoup M. Omar, mais ce que je dirais, dans la vie, l'humilité précède la gloire et moi je suis de l'école de la modestie. J'apprends des autres, j'apprends aux autres. Il a le monopole de la connaissance. Quand on parle du Maroc, il ne compare que par rapport aux élections présidentielles. Mais il y a des élections à d'autres niveaux. Quand on parle de la Grande-Bretagne, il ne compare que les élections présidentielles parce que là-bas ce sont des royaumes ou des, et tout. Il y a des élections à d'autres niveaux. Donc, aucun pays n'a échappé aux élections. Les élections, ils sont dans tous les pays. Et puis, d'autant plus qu'il faut se dire que dans tous les pays démocratiques, bien sûr, de cette précision. Et il faudrait aussi dire que la comparaison n'est pas raison. Ici, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous avons 2 345 000 km² et on a 9 frontières. Après le Brésil, qui a 10 frontières. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser. Moi, je reste en disant, nous sommes dans une
situation. Les réalités ne sont pas les mêmes.
Soyons réalistes. Ici, le débat actuel, c'est par rapport aux missions assignées à ce gouvernement. Ce n'est pas par rapport à la vie quotidienne d'une démocratie où je pouvais dire que le social va plus haut et puis les démocraties viennent d'une manière élémentaire. Nous sommes dans un cas particulier. Et vous m'avez bien posé la question par rapport à ce cas particulier où j'ai dit pour que ce gouvernement réussisse, je mets de pair, il doit et arranger et le social et les élections. Donc nous devons arriver aux élections. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Et j'affirme, j'insiste. Et si lui veut me faire voir la théorie qu'il a pu apprendre à l'école et la réalité qui nous a rattrapé aujourd'hui dans le cas particulier,
c'est
diamétralement opposé. C'est pour ça que l'arrogance, parce qu'on passe aux médias, il faut savoir quoi dire et qu'on puisse vous écouter. Moi, en tant qu'élu du peuple, je suis en train d'éclairer la lanterne du peuple. Nous sommes dans un cas particulier. On a assigné une mission au gouvernement et cette mission-là assignée, nous voulons que le gouvernement aille de paix sociale et élection qu'on aille. Parce que si maintenant, là, il va dans le social plus haut, demain, il n'y a pas des élections, on dira qu'il a échoué.
Tout à fait.
S'il va aux élections plus haut et que demain, le social, encore, il y aura grogne, la population sera sur la route, on n'aura rien fait. Il doit équilibrer les deux pour que nous puissions...
Alors, parlons de la responsabilité parlementaire, hein, parce que cela a été évoqué par les auditeurs, la responsabilité parlementaire. Si nous sommes arrivés, c'est pas aujourd'hui, vous évoquez les cas de la méritocratie, mais pour qu'on arrive aujourd'hui à ce résultat qui est décrié, la non-organisation des élections, on peut directement, par analogie, faire peut-être des comparaisons en disant que il n'y a pas eu de méritocratie, il y a eu des gouvernements qui ont précédé, qui étaient composés ou constitués de moins en moins de hommes qui ont mérité, selon vos propos, pour le reprendre que ce que vous avez dit. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une part de responsabilité de parlementaire?
Merci beaucoup, monsieur JR. Je suis très content, très à l'aise que je puisse avoir cette question. Mais je demanderai à tout le monde de rentrer sur Terre. Quittons la planète Mars. Rentrons sur Terre. S'il y a eu tout ceci, manque d'amour du prochain, manque d'amour de la patrie. Nous avons contribué à des insécurités. On a comploté contre la République. Au moment où nous avons adopté tel budget et on met des priorités à tel endroit, nous-mêmes Congolais, nous allons comploter pour qu'on vienne déstabiliser notre pays pour des intérêts personnels. Et face à la sécurité, je crois que l'urgence, c'est sauver la population, c'est aller sécuriser cette population, que cette population ne meure pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu budgétiser ou allouer à tel secteur est obligé d'arrêter. Urgence, sécurité. Priorité zéro, armée, police, et vous devez aller pour qu'on puisse arrêter les morts. Aujourd'hui, même s'il y a encore des morts, quand on regarde derrière tout ça, le complice, c'est qui? C'est le peuple congolais. Alors tout ça, il faudrait se tenir compte qu'il y a eu un parcours, le budget a été déstabilisé parce que nous devions sécuriser la République. J'ai dit tout à l'heure, nous avons 9 frontières. Et toutes les frontières sont poreuses, ça je le dis. Mmh. Et il y a beaucoup à faire. Et j'ai insisté que je suis à l'école de la modestie. L'école de la modestie me dit, j'apprends aux autres, j'apprends des autres. Si j'ai dit aujourd'hui que tout renvoyait, que c'est X, Y, Z, moi je ne suis pas Adam. Quand on lui a posé la question, je ne suis pas Adam quand on lui a posé la question, c'était la femme que tu m'as donnée pour qu'on dise que l'erreur était venue de Dieu ou de Ève ou du serpent. Moi si j'accepte, et à ma part de responsabilité, je reconnais. Mais j'interpelle tout le monde à l'amour de la patrie et à l'amour du prochain. C'est pour ça que j'ai dit, au lieu de regarder le ministre, le premier ministre Sali Badibanga, c'est mieux que tout le monde maintenant vienne amène une pierre à l'édifice. Donc là, maintenant, ce ne sera pas, oh non, c'est la part du député, c'est la part du premier ministre, mais il faudrait qu'on arrive un jour qu'on se dise, tout ceci, c'est nous Congolais. Approprions-nous de ce gouvernement, approprions-nous de cette situation, quittons-nous tous le cas particulier. Quand nous, les Congolais, nous sommes unis autour d'une table, on est capable de beaucoup. Regarde aujourd'hui ce que l'équipe nationale est en train de nous faire avec Flora Lidengue. C'est parce que nous tous Congolais, nous sommes là, unis, et nous sommes capables de tout. Il y a eu ce cas à la tête de l'Union africaine. L'accord qui est produit, c'est parce qu'on a accepté de se mettre autour d'une table. Alors ça ne sert à rien. Et le moment même d'interpeller ceux-là qui sont encore à l'extérieur, de revenir, le Congo est à nous tous.
C'est une question de curiosité avant de rouvrir le standard. Sentez-vous à l'aise, honorable Patrick Akwata, aujourd'hui, entre l'accord et la Constitution? Vous êtes législateur. Le fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'accord qui prend le dessus sur la Constitution. Est-ce que vous vous sentez encore à l'aise et vous vous sentez encore assis?
L'accord n'a pas pris le dessus sur la Constitution. Ça, je peux vous le dire. Tout simplement, je l'ai dit. Je crois sur vos ondes ou je ne sais pas où. Je l'ai dit ceci. La Constitution votée ou adoptée le 18 février 2006, nous avions nous tous omis un cas ou une disposition, au cas où on arrivait un jour qu'on n'organisait pas les élections en délai. Que devons-nous faire? On a oublié cette disposition. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés. Nous sommes dans une situation de cas particulier, dont certains, je refuse de prendre leurs mots, mais c'est dont certains ils appellent régime spécial, d'autres appellent transition, certains appellent sujet glissement et tout. Mais moi, je le dis, c'est un cas particulier. L'accord qui vient là, c'est l'accord d'un cas particulier, sans préjudice de toutes les dispositions constitutionnelles. Donc l'accord n'a pas pris le dessus sur la Constitution, mais c'est un cas particulier qui, après avril 2018, nous l'oublions, nous continuons sur notre Constitution.
Donc il n'y a pas réalité une crise institutionnelle entre le gouvernement et le Parlement.
Il n'y en a pas.
Il n'y en aura pas. Le nouveau gouvernement qui. Il n'y aura pas de bateau, de pot de banane.
La Constitution règle. Donc nous sommes en train d'évoluer. Même avec le nouveau gouvernement, nous allons évoluer avec cette Constitution.
Parce qu'il n'y aura pas la majorité parlementaire.
Si, la majorité parlementaire, jusqu'à ce jour, elle est là, elle ne s'est pas
éteinte. Non, j'ai dit le Premier ministre n'aura pas cette majorité tant qu'il n'est pas de
mais
la majorité.
Nous avons signé avec lui un accord. J'ai dit l'accord est un cas particulier. Mm-hmm. Nous avons signé avec lui un accord. Donc c'est pour dire qu'il y a alliance pour un meilleur de la République démocratique du Congo de demain. Donc la majorité présidentielle a accepté de soutenir, mais pas étant une caisse de résonance. Voilà. Il faut le noter.
Alors, vous voulez permettre de soutenir, mais pas une caisse de résonance. On va prendre cette dernière série des auditeurs. Franck qui nous a appelé de l'Allemagne, maître Jean-Paul de Mbandaka, félicité avec Kinshasa. Franck, vous êtes à l'Allemagne. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Voilà, on va accorder à chacun oui, on va accorder à chacun une minute et demie. Juste une minute, pour avant de conclure avec notre invité. Franck, vous avez la parole. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, merci beaucoup. Je crois que qu'en une minute, on peut tenter de dire l'essentiel. La réussite de l'actuel gouvernement dépendra d'un grand facteur. Ce facteur, moi, je le thématise en deux mots, volonté politique. Quand on a de la volonté politique, on peut arriver maintenant à sélectionner les critères des politiciens qui pourront entrer dans ce gouvernement afin qu'ils répondent aux desiderata de la population. De deux, il y a quand même quelques difficultés. On ne peut pas non plus étouffer. Nous connaissons un peu comment ça se passe chez nous, l'égoïsme. le gouvernement d'Union nationale sont dans la plupart des cas des gouvernements éléphantesques. Avec ce qui se passe là, vous êtes sur place à Kinshasa, avec ce qui se passe là, les gens se bousculent pour entrer au gouvernement. On se demande si ce gouvernement aurait vraiment d'abord la première mission de conduire librement le pays vers l'état électoral, quoi. Et un autre aspect, pas de moindre, c'est le budget. Que ce soit l'amélioration du social, que ce soit l'organisation des élections, on ne peut pas les avoir sans un budget conséquent. Et avec 4 milliards, est-ce que vraiment on pense et améliorer le social et aller aux élections avec ce montant ou on devrait encore voter un autre budget?
Voilà. Je crois que vous avez fait un cours d'élection. Notre invité avait déjà précisé là-dessus. Je crois qu'en conclusion, il pourrait y revenir. Mais vous avez ajouté un élément important, c'est la volonté politique par laquelle passent les critères de choix hein, de membres qui devront donc composer l'actuel gouvernement. Merci beaucoup, Franck. Maître Jean-Paul, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, Julien. Bonjour à l'invité, l'honorable Kakwata et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà. Alors, la question sur le budget, tous les auditeurs qui vous ont précédé l'ont évoqué. La volonté politique, Franck venait de le dire tout à l'heure, la responsabilité parlementaire, Maître Omar l'a évoqué. Quel est l'élément à nouveau que vous ajoutez à ce niveau du débat?
Bon, tout ce que je voudrais dire, c'est que nous a été dit que lorsque la prémisse est mauvaise, la conclusion doit être globalement totalement mauvaise. Le choix de cet animateur politique a été pris, n'est-ce pas, dans la précipitation. Aujourd'hui, je vais vous dire que le premier ministre est issu de l'opposition, bien sûr récusé. L'UDPS avait 40 députés qui étaient là, l'opposition. Maintenant, la majorité présidentielle et parlementaire qui pouvait les soutenir a commencé à les désavouer. Moi, je ne vois pas que, je ne suis pas optimiste quant à ça, hein, qu'il va faire quelque chose d'importance dans ce pays. On a cru avec les budgets, les programmes de Matata, qu'il circuiterait les chefs de l'État à ce qui concerne les sorts du Congolais. Malheureusement, c'était un programme complaisant, juste pour se couvrir de la peau, montrer à la population qu'il aimait la population. Je vois rien de ce que le Premier ministre va faire aussi longtemps que son émanation pose des problèmes dans la classe sociale, dans la classe politique et sociale.
Voilà, merci beaucoup, Jean-Paul.
C'est important ce qu'il vous dit là. Il vous dit qu'il n'y aura pas, l'instabilité institutionnelle. Mais ça pose un problème.
Voilà,
aujourd'hui, le Premier ministre, où est-ce qu'il aura la majorité parlementaire?
Merci beaucoup, Jean-Paul. Voilà, donc je crois que le problème est très bien posé. Nous allons conclure d'ailleurs avec notre invité tout à l'heure. Il est temps peut-être d'écouter Félicien, le tout dernier auditeur. Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs des Radio Capi.
Qu'est-ce que vous attendez de ces gouvernements?
Ah bien, moi je pense que nous avons un problème de l'élite dans ce pays. L'élite qui devrait sauver la situation et entrer dans une culture de jouissance. On ne fait plus la politique pour la bonne gestion de la République en vue de donner au peuple le mieux-être auquel il aspire. Et on ne peut rien attendre de ces premiers ministres dans la mesure où et ceux qui l'ont mis là-bas et savent qu'il ne va jouer aucun rôle. Quand déjà on commence à lui mettre les bâtons dans les roues, la veille même de sa nomination, et celui qui n'a plus de pouvoir commence à nommer les siens dans les régies financières et les entreprises importantes. Et moi je sais que nous sommes entrés dans une situation très catastrophique pour notre pays. Il faut un sursaut de patriotisme à tous ceux qui sont élites. Et ils doivent comprendre que nous devons sauver le pays et non pas les individus. Parce que là, on est en train de travailler pour l'intérêt personnel. Et tout le monde va aller au gouvernement, tout le monde va manger et boire comme d'habitude. Mais vraiment, il n'y aura rien qui va changer. Et il n'y aura ni les moyens d'organiser les élections, ni et donner le social au peuple congolais. Et attendons voir.
Merci beaucoup, attendons voir, Félicia. Vous avez relevé une chose que notre invité avait dit tout à l'heure. Sur ce, le patriotisme. Est-ce que vous partagez cet avis, honorable Patrick Ascota?
Merci beaucoup, mais je partage, oui, j'accepte. Et là où il m'a dit dessus, c'est attendons voir. C'est ce que je ne veux pas. Je veux que tout le monde puisse venir. Attendons voir là. Cela veut dire quoi? Nous attendons un échec. Pourquoi attendre un échec? Amène ce que tu peux amener. On utilise toujours d'habitude quand on veut voir que la personne ne réussira pas.
Ouais.
Mais quand on sait que la personne ne réussira, jamais quelqu'un a dit what and see. Donc, moi, j'aurais préféré qu'il y ait tout.
Yes weekend.
Yes weekend, par exemple, ensemble de pouvoir, où c'est possible. Mm-hmm. Ça, c'est un. Et puis, j'ai aimé celui qui a dit la volonté politique. C'est de la même façon que moi, je l'ai dit. Nous voulons des hommes compétents. Nous voulons une méritocratie. Nous voulons des gens capables à relever les défis. Et que nous tous ayons l'amour de la patrie. Ayons l'amour du prochain. Mettons nos mains à la pâte. Au lieu de juger l'acte de X, Y, Z, ne soyons pas des Adam. Fermons les yeux. Ce sont aussi des Congolais, ce sont des travailleurs. Le mois, c'est de laisser une personne évaluer. Pourquoi on dit toujours les 100 jours? Ici, chez nous, quoi qu'on fasse, on critique. Même si on n'aurait pas mis Samy Badibi, on aurait toujours critiqué que non, on connaît le chef de l'État, quand un accord arrive, il faut toujours une année,
puis il n'y aura pas une motion de défense.
Non, mais si, c'est
type,
oh, voilà et tout.
Mais il n'y aura pas une motion de défense.
C'est de bonne guerre, la motion. C'est de bonne guerre, la motion peut arriver, tout comme elle ne peut pas arriver. J'ai dit ceci. Le moins, c'est de travailler, il y aura le temps d'évaluer. L'évaluation, pourquoi nous disons les 100 jours? Alors, laissons évaluer. Moi, je ne peux pas évaluer aujourd'hui l'équipe ou le Premier ministre, mais je me donne le temps pour l'évaluer. Mais le temps de l'évaluer, je ne serai pas là comme spectateur. Je vais aussi amener le plus que je peux. Le peu que je peux, j'amène, mais je vais l'évaluer aussi. Et je serai direct avec lui pour le lui dire. Et c'est comme ça que même le peuple m'a élu pour cela, pour dire, tu vas là-bas, tu ne t'étais pas, mais tu parles et tu agis.
Patrick Kakwata, député national, élu d'écologie, président du mouvement des réformateurs libéraux, quoi que ce soit là, MRL, parti de la majorité. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir dans ce studio et partager ensemble avec les auditeurs sur la question des attentes de ce nouveau gouvernement qui sera dirigé par Samy Badi Banga, l'ancien député de l'IDPS. Une fois encore, merci à vous tous qui avez participé à ce débat. Merci aussi à Paul Badianyama qui a assuré la mise en onde de cette émission. Où Julie et Faisa Bourunda a assuré les standards et Martin Sabouzangui a eu le plaisir de superviser dans cette émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabong Anji. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes.